La rumeur des berges, les sycomores, tout le paysage que c'était. Le corps pressé, recroquevillé sur lui-même de Sumiko, qui se glissait dans les venelles avant de déboucher dans la clarté des berges. Le ciel massif qui surplombait les herbes hirsutes, chavirées par le vent. Et l'humidité glorieuse du fleuve, dont l'eau gonflée se frayait un chemin preste entre les roches, diligente dans sa route obstinée vers la mer, loin, très loin, vers le grand paysage de l'estuaire. Les porteurs soulevaient Sumiko au-dessus du flot gris, les mollets dans l'eau, ils avançaient avec lenteur, repoussant le courant de leurs jambes, et elles, tanguant dans leur marche, respirant la moiteur du fleuve, considéraient la rive d'en face, vacillante dans leurs à-coups. C'était toujours ça, l'air chargé d'eau, épais, qui montait de la rivière et dont on sentait la résistance quand il entrait dans vos narines, vos poumons, non pas cet oxygène tout léger dans lequel on évolue sans y songer, mais quelque chose dont la densité soudain était perceptible. Et cette densité produisait en vous comme une ivresse qui s'accordait bien avec les sentiments de Sumiko, la perspective de l'étreinte toute proche dans la chambre de l'auberge et tout ce que cela charriait forcément d'attente et de fièvre. Il y a parfois je ne sais quoi dans l'air qui vous paraît inexplicablement en accord avec vos pensées. Au-dessus du fleuve, le vent prenait une vigueur nouvelle. Il s'en venait vous fouetter la surface de l'eau qu'il faisait friser en des serpentins de mousse qui se dissipaient vite dans le flot agité, lequel presque aussitôt les absorbait, laissant place à de nouveaux qui se formaient puis se dissolvaient de la même manière, et ainsi de suite dans ces après-midi tourmentés où les joncs même étaient parcourus de tremblements. Quand elle arrivait sur la berge, Sumiko trouvait à cette fraîcheur toute neuve, à cette brise qui se levait, à cette humidité que l'air charriait et qui le rendait plus concret, plus enveloppant, des échos à ce sentiment de liberté qui commençait de naître en elle. Un sentiment qu'il n'avait pas encore envahi quand elle avait mis ses socs et, tirant la cloison, fait apparaître la grande page du dehors, car il lui fallait être prudente alors, s'assurer qu'aucune silhouette ne s'y dessinait. Et c'était plutôt contrainte à ce moment-là qu'elle se sentait, prisonnière de ce filet dont elle cherchait à s'échapper. Son regard fouillait avec anxiété la ruelle, les ombres retorses, l'enfilade des seuils des maisons proches pour vérifier qu'ils étaient déserts, que personne n'y avait entamé une petite conversation de voisinage, comme il arrive, ni entrepris de nettoyer son pas de porte et « Tiens, Sumiko, où vas-tu donc comme ça ?» vous demanderait-on tout naturellement, et pourtant, avec déjà dans la voix des levures de soupçons, de celles qui ont vite fait de fermenter dans l'esprit des voisins, que le seul fait d'habiter une maison mitoyenne de la vôtre rend plein d'une curiosité méchante à votre égard. Et leur malveillance n'est-elle pas pour eux nécessaire et vitale, car elle est le moyen qu'ils ont trouvé de se conforter dans l'idée que la vie qu'ils mènent, par contraste avec la vôtre, est la bonne, puisque c'est bien cela, la question insidieuse qui les travaille et que leur assurance bornée est là pour masquer. Mais maintenant, devant le paysage dégagé du fleuve, ce sentiment de liberté se déployait à son aise. Et la texture de l'air soyeux et humide l'amplifiait d'une manière injustifiable, comme si ce n'était pas seulement la perspective des étreintes avec l'oncle, mais aussi les composants chimiques que cet air véhiculait, leur assemblage, qui distillait, par le moyen de cette chimie puissante, l'idée même de liberté, qui en était ainsi le résultat quasi physiologique. Le rythme de votre souffle s'accélérait, votre poitrine se gonflait, à votre œil, un éclat nouveau